Les nuits de France Culture.
Charles Dubost est un pionnier dans le monde de la chirurgie cardio-thoracique. Connu pour ses techniques innovantes, il est le premier en 1955 à utiliser le cœur-poumon artificiel pour une opération à cœur ouvert. Toujours en s'inspirant des techniques à la pointe de la recherche, entretenant notamment un lien étroit avec les États-Unis, il devient en 1968 le premier en Europe à réaliser une transplantation cardiaque. Résistant lors de la Deuxième Guerre mondiale, il est élu en 1975 à l'Académie des sciences, le couronnement d'une carrière monumentale passée au service de la médecine. Ce numéro du Progrès et la vie de Paul Sarès propose une expérience inédite. Charles Dubost explique et commente une opération à cœur ouvert, réalisée avec la technique de l'hypothermie profonde, combinée au cœur-poumon artificiel. C'est notamment le rôle du froid qui est mis en relief, permettant la réalisation d'une opération qui sauverait un jeune homme de 22 ans souffrant d'une malformation congénitale du cœur. Une émission qui donne accès aux coulisses d'une opération à la pointe de la technologie de l'époque et à l'une des applications pratiques les plus importantes de la recherche autour du froid, donc diffusée pour la première fois le 9 mars 1960 sur France 1 Paris Inter.
Pour tous ceux qui intéressent le prodigieux développement scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence, voici réalisé par Paul Castan une émission de Paul Sarès, placée sous le haut patronage du Conseil de l'Ordre des médecins, Le Progrès et la vie. Ce soir, en émission différée, vous allez revivre certaines phases d'une opération à cœur ouvert, réalisée grâce à la technique de l'hypothermie profonde combinée au cœur-poumon artificiel. C'est un éminent chirurgien, dont nous tairons le nom pour répondre aux règles de la déontologie, qui commentera pour vous cette intervention spectaculaire, véritable miracle de la chirurgie moderne.
Nous sommes dans un grand hôpital parisien dans le service de chirurgie cardiaque. Bonjour docteur. Vous nous avez parlé, voici déjà 3 ans, à la tribune du Progrès, des premiers résultats obtenus par la toute jeune chirurgie cardiaque. Mais depuis quelques mois, votre équipe chirurgicale a mis au point une nouvelle technique qui améliore les conditions opératoires et qui apporte aux malades une plus grande sécurité et permet des interventions impossibles jusqu'alors. Comment avez-vous été amené, docteur, à utiliser cette nouvelle technique ?
Depuis 5 ans, nous avons opéré plus de 200 malades en utilisant un cœur-poumon artificiel inspiré d'un modèle américain dans les conditions que nous indiquions lors de nos précédentes entrevues. Bien que des progrès marquants aient été réalisés grâce à cet appareil, il nous apparaissait que dans certaines maladies cardiaques, les conditions opératoires étaient rendues difficiles essentiellement par la persistance du saignement à l'intérieur des cavités du cœur. Pour pallier cet inconvénient, un auteur américain proposait d'interrompre la circulation de l'aorte et de provoquer un arrêt cardiaque. L'ensemble de l'organisme opéré était alors nourri par le sang du cœur-poumon artificiel, tandis que le cœur, privé de son apport de sang oxygéné, s'arrêtait.
On opérait donc en circulation extracorporelle et en cœur arrêté.
Exactement. Cela devait faciliter grandement l'acte chirurgical intracardiaque, mais n'apportait pas, dans certains cas particuliers, la solution à tous les problèmes. Cependant, au cours des années, divers perfectionnements intervenaient, en particulier l'introduction dans le circuit de circulation extracorporelle d'une hypothermie modérée, c'est-à-dire un refroidissement modéré du sang qui circule dans le cœur poumon artificiel et ensuite dans l'individu. Cette hypothermie devait permettre de diminuer le débit de la circulation artérielle de l'opéré et, par là même, de diminuer d'autant le retour sanguin gênant dans les cavités du cœur. Mais malgré ce progrès, la solution définitive n'était pas trouvée.
C'est alors qu'avec votre équipe, vous avez mis au point un système qui associe, en quelque sorte, le cœur-poumon artificiel et l'hypothermie profonde.
Exactement. Non plus l'hypothermie modérée à 30 degrés, mais l'hypothermie profonde à 10 degrés au-dessous, de manière à obtenir non seulement un arrêt complet du cœur, mais encore un arrêt circulatoire total d'une durée d'une heure environ.
Et sur le plan pratique, docteur, comment réalisez-vous cette intervention ?
Vous êtes en ce moment dans l'antichambre de la salle d'opération. Le malade va être préparé à subir l'intervention qui consiste en une communication interventriculaire. Et je vais, si vous le voulez, vous commenter cette intervention, mais à distance, en vous expliquant les temps préliminaires principaux. Dès que j'aurai réalisé cette intervention, je viendrai vous retrouver pour vous donner les détails chirurgicaux proprement dit. Il s'agit d'un homme de 22 ans qui présente une communication anormale entre les deux ventricules du cœur et une complication sévère de cette affection congénitale, une très grande hypertension dans le territoire de l'artère pulmonaire. Et c'est pour assurer une correction aussi parfaite que possible de sa lésion que nous avons décidé d'opérer ce malade en utilisant le cœur-poumon artificiel jumelé au grand froid. Voici le montage que nous utilisons pour cette opération.
Eh bien, je reconnais dans cet assemblage de tuyaux et de pompes le cœur-poumon artificiel qui nous est devenu presque familier aujourd'hui. Rappelons que ce cœur est composé d'une part du cœur artificiel dont les pompes envoient le sang dans la circulation artérielle du malade et d'autre part d'un poumon artificiel dont le but est d'oxygéner le sang prélevé au niveau du système veineux de l'opéré.
Ce sang oxygéné est propulsé dans son système artériel, mais il passe au préalable dans ce que nous appelons un échangeur thermique, c'est-à-dire un ensemble de tuyaux présentant certaines définitions de longueur, de calibre et d'épaisseur, tuyaux qui plongent dans un bain glacé au départ pour refroidir le sang qui y circule et qui plongera dans de l'eau chaude, l'opération terminée, pour faire remonter la température de l'opéré. Vous allez, tout à l'heure, assister au fonctionnement de ce cœur-poumon artificiel combiné à l'échangeur de température, d'un peu loin, et je m'en excuse, car le public non médical n'est pas admis à suivre de près une intervention chirurgicale. En ce moment, le malade est étendu sur la table d'opération, il est anesthésié, et l'incision du thorax, c'est-à-dire l'ouverture de la poitrine, nécessaire pour exposer le cœur, est en train d'être pratiquée par mon assistant. Au préalable, l'artère fémorale a été dégagé au pli de l'aine. C'est par cette artère fémorale que le sang artérialisé venant de la machine sera injecté, refroidi, dans le malade. Une fois que la poitrine aura été ouverte, le péricarde, qui est l'enveloppe du cœur, sera à son tour incisé, et l'oreillette droite, c'est-à-dire la cavité qui reçoit le sang veineux de l'économie, sera à son tour canulée. Cette canule, introduite dans l'oreillette droite, aspirera le sang veineux. Ce sang sera dirigé sur l'oxygénateur où il subira l'oxygénation. Il passera ensuite dans l'échangeur thermique pour être enfin dirigé vers l'artère fémorale de l'opéré. Mais je vous quitte car on m'appelle en salle d'opération pour pratiquer cette intervention dont je vous commenterai les principaux épisodes tout à l'heure.
Eh bien, pendant que le grand spécialiste opère dans le cœur même vide de sang, le cœur-poumon artificiel fonctionne devant nous. Vous entendez peut-être le bruit des moteurs qui actionnent ces pompes. Le sang noir du malade est dirigé vers l'oxygénateur. Il en sort rouge, c'est-à-dire artérialisé. Nous avons arrêté notre enregistrement pendant les 80 minutes durant lesquelles l'acte opératoire principal s'est déroulé. Et maintenant, je vois revenir le docteur. Eh bien, docteur, puisque vous êtes revenu à notre micro, voulez-vous nous dire comment s'est passée cette intervention ?
L'opération s'est déroulée dans des conditions très satisfaisantes et nous avons pu fermer avec précision la très large communication interventriculaire de ce malade. Voici en quelques mots comment l'opération s'est effectuée. Le système cœur-poumon artificiel a été mis en route et très rapidement, puisque c'était du sang froid qui arrivait dans la circulation de l'opéré, très rapidement, la température centrale a baissé. Au bout de 20 minutes, elle était de moins de 10 degrés, aux environs de 8 degrés.
À quel moment précis le cœur a-t-il cessé de battre ?
Eh bien, il a cessé de battre aux environs de 17-18. C'est d'ailleurs ce qui se passe généralement. Mais avant d'atteindre cette température, il avait fibrillé. C'est-à-dire qu'il avait été agité de mouvements non coordonnés, non efficaces. Nous avons alors néanmoins décidé de descendre plus bas la température pour la raison suivante. Si nous voulons arrêter la circulation extracorporelle à un temps suffisamment long pour pratiquer l'opération intracardiaque, il faut que le cerveau soit refroidi aux environs de 10. On estime qu'à cette température, le cerveau, qui est l'organe le plus fragile, consomme un minimum d'oxygène et qu'il peut être privé de circulation pendant une heure.
Alors qu'à 37 degrés, quelques minutes sans irrigation suffisent à créer dans le cerveau des lésions irréversibles.
C'est exact. Et cette hypothermie profonde, qui constitue un grand progrès, permet d'arrêter complètement la circulation artificielle pendant une heure environ. et lorsque la température que nous enregistrons à la fois dans l'œsophage, dans le tympan et dans la région cérébrale atteint 10, la circulation artificielle est complètement arrêtée. Nous ouvrons alors le cœur, en l'occurrence dans cette opération pour communication interventriculaire, le ventricule droit. Le cœur est complètement immobile, il est totalement vide de sang. On peut repérer avec précision les limites de cette communication interventriculaire et mettre en place un certain nombre de points de suture qui assujettissent au pourtour de l'orifice une plaque de matière plastique qui obture complètement la communication anormale. Une fois cette opération terminée, le ventricule est suturé, réparé et la circulation artificielle remise en route.
Mais cette fois, l'échangeur de température, au lieu de plonger dans de l'eau glacée, plonge dans de l'eau à 36, 37 degrés.
C'est exact, et ainsi la température du corps du sujet remonte aussi vite qu'elle avait baissé. Dans cette opération, il a fallu environ 29 minutes pour remonter de 8 degrés à 34, température à laquelle nous pouvons arrêter toute circulation artificielle. En effet, spontanément, le cœur a repris ses battements propres.
Vous avez dit, spontanément, le cœur a repris ses battements. Parfois, il faut les stimuler quand ils ne reprennent pas naturellement.
C'est exact, et dans 50% environ des cas opérés de la sorte, le cœur reprend seul ses battements efficaces et réguliers. Dans d'autres cas, au contraire, il continue à fibriller, et il faut alors employer un défibrillateur dont une seule décharge électrique suffit à faire repartir le cœur à un rythme régulier.
Maintenant, l'opération est pratiquement terminée. Pouvez-vous nous dire si elle a réussi ?
Oui, le malade a même repris connaissance sur la table d'opération. Nous avons donc de très bonnes raisons d'espérer une guérison complète et définitive de cet homme.
Eh bien, cette technique opératoire, très récente, puisqu'elle n'a que quelques mois, vous a permis de réussir des interventions sur des malades jusqu'alors inopérables.
En fait, nous utilisons cette technique depuis plus de 4 mois chez l'homme, après 7 mois de recherche au laboratoire. Nous sommes convaincus de son très grand avenir. Nous avons déjà opéré près de 40 cas, jusqu'ici difficilement opérables, avec un pourcentage de succès inespéré. Nous avons pu, dans d'excellentes conditions, nous attaquer à des cardiopathies qui étaient autrefois réputées comme sinon inattaquables, tout au moins comme très difficilement corrigibles.
Cette technique a donc l'avantage d'offrir d'une part au chirurgien un champ opératoire calme et absolument vide de sang, qui lui permettent ainsi une aisance et une précision infiniment plus grande, et d'autre part, au malade, un surcroît de sécurité, puisqu'il ne perd pas une seule goutte de sang pendant toute la durée de l'intervention. Voulez-vous nous dire, docteur, pour conclure, ce qu'on peut espérer de ces conditions opératoires si favorables au chirurgien et si favorables à son malade?
Il est raisonnable d'espérer que nous pourrons bientôt nous attaquer à des lésions qui étaient jusqu'alors franchement inattaquables. Je vais pour cela vous citez 3 exemples récents. Vous avez certainement entendu parler des oblitérations des artères coronaires auxquelles le genre humain paye un si lourd tribut, sous la forme d'angine de poitrine et d'infarctus du myocarde. Il nous a été donné d'opérer récemment chez un homme de 37 ans une telle oblitération coronarienne, et cela avec succès, au prix d'une opération qui a comporté un arrêt complet du cœur pendant 1h30. Nous pouvons, et c'est un point sur lequel j'insiste avec cette technique, allonger pendant un temps très long la durée de l'arrêt du cœur. Ceci est un point extrêmement important lorsqu'il va s'agir d'envisager des opérations plus complexes que celles que nous faisions jusqu'à maintenant, opérations qui portent sur l'orifice aortique et sur les artères coronaires. Nous pensons, je ne veux pas dire cependant que toutes les maladies des coronaires relèvent de la chirurgie, mais nous pensons que dans un certain nombre de cas bien choisis, bien triés, nous pourrons dans un proche avenir pratiquer soit la désoblitération des artères coronaires bouchées, soit même leur remplacement par un fragment de greffe humaine ou de plastique.
Et dans le domaine non cardiaque, docteur, cette méthode doit également être pleine de promesses.
Bien sûr. Vous pouvez imaginer, par exemple, une opération pour une tumeur du foie. Il sera plus aisé d'opérer le malade en le refroidissant à basse température, en arrêtant complètement sa circulation et en pratiquant l'ablation de la masse tumorale rapidement et sans hémorragie. 2 exemples que nous avons réalisés récemment vont venir illustrer ces possibilités nouvelles. Dans l'un de ceux-ci, il s'agissait d'un anévrisme à point de départ aortique. Vous savez sans doute ce qu'est un anévrisme de l'aorte. C'est une dilatation anormale du vaisseau qui menace de se rompre. Il faut donc enlever la partie malade et la remplacer par une greffe. Et là encore, L'association de l'hypothermie profonde et du cœur-poumon artificiel a rendu possible cette opération. Un exemple encore, tout récent celui-là, concerne une tumeur cérébrale. Nous avons opéré il y a 3 semaines un jeune homme de 18 ans qui présentait un angiome du cerveau, c'est-à-dire une tumeur constituée de vaisseaux, enchevêtrés les uns dans les autres, qui menacent de se rompre au cours de leur évolution. Si cette opération avait été faite selon les techniques habituelles, elle aurait présenté un risque plus grand et une difficulté plus considérable pour le chirurgien en raison du saignement très important survenant lors de la dissection de chacun des centaines de petits vaisseaux qui constituent la masse angiomateuse. Au contraire, en refroidissant le malade, son cerveau est protégé et d'autre part, en arrêtant la circulation, l'angiome se présente comme une masse absolument vide de sang, inerte, qu'il devient plus facile d'enlever.
La combinaison du cœur-poumon artificiel et de l'hypothermie profonde ouvre donc d'immenses perspectives non seulement à la chirurgie cardiaque, mais aussi à la chirurgie générale. Nous vous remercions, docteur, d'avoir bien voulu nous expliquer cette nouvelle technique opératoire, tout à l'honneur de la médecine française et en particulier de votre équipe chirurgicale.
Nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser sur l'entretien de ce soir ou sur tout autre sujet scientifique d'actualité. Écrivez à la Radiodiffusion Télévision Française, émission Le Progrès et la Vie, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. C'était réalisé par Paul Castan, une émission de Paul Sarès, Le Progrès et la Vie, consacrée ce soir à une opération à cœur ouvert, réalisée grâce à la technique de l'hypothermie profonde combinée au cœur-poumon artificiel.
C'était Le Froid et la Chirurgie Cardiaque, un numéro du Progrès et la Vie de Paul Sarès, réalisé par Paul Castan, avec le docteur, chirurgien et professeur Charles Dubost. Première diffusion le 9 mars 1960 sur France 1 Paris Inter.